Le journal Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Est-ce le début des représailles israéliennes? Des explosions ont retenti dans le centre de Téhéran, à proximité d'une base militaire. Israël se refuse pour le moment à tout commentaire.
L'offensive de Téhéran contre l'État hébreu a occulté le week-end dernier un déchaînement de violence contre des Palestiniens de Cisjordanie occupés.
En France, 2 heures d'interview pour résumer 100 jours à Matignon. Retour sur le premier bilan de Gabriel Attal. Marguerite Caton, votre question du jour.
Après l'annulation des conférences de LFI sur la Palestine, peut-on interdire des réunions politiques au nom de l'ordre public?
Ce sera juste après ce journal. Au moins 3 explosions ont touché cette nuit le centre de l'Iran. Selon le New York Times et des chaînes de télévision américaines, il s'agit d'une attaque israélienne. Depuis l'offensive de Téhéran, en grande partie déjouée le week-end dernier, l'État hébreu a multiplié les annonces sur de possibles représailles. Ce matin, l'Iran précise également avoir abattu plusieurs drones et dit n'avoir subi aucun dégât majeur. Mais la situation est assez confuse encore à cette heure. Israël se refuse pour le moment à tout commentaire. Et dans le nord, justement, de l'État hébreu, les habitants ont été réveillés ce matin par les sirènes de l'armée. Il n'y a pas plus d'informations sur la situation, mais sans attendre, l'Australie a appelé tous ses ressortissants à quitter Israël et les territoires palestiniens au plus vite. Cette attaque menée par l'Iran le week-end dernier a occupé toute l'attention, mais une vague de représailles a également eu lieu pendant 3 jours. En Cisjordanie occupée, au moins 4 Palestiniens ont été tués et plus de 75 blessés dans des assauts contre des villages au nord de Ramallah. Un sursaut de violence déclenché par la mort d'un jeune colon israélien de 14 ans, mais surtout une violence qui se généralise. Notre correspondante Alice Froussard est allée à la rencontre de ces Palestiniens dans le village d'Al-Murayyam.
Ça, ce sont des balles. Et ces taches-là, c'est le sang du martyr.
Abdel Latif Abou Alia montre les dégâts. Ce week-end, sa maison en bordure du village d'Al-Mukhayer a été la première attaquée par des centaines de colons. Ils avaient le visage masqué, étaient lourdement armés.
Ils ont commencé à encercler la maison de tous les côtés. Et les soldats n'autorisaient pas les habitants à venir nous aider. Les colons ont commencé à nous jeter des pierres et tirer à balles réelles alors que nous étions à l'intérieur de la maison et que nous ne faisions rien. Ça a duré 3 heures pendant lesquelles ils ont tué Jihad, mon cousin. Mon fils s'est pris une balle et mon frère a été frappé.
Sur le sol, il reste un oreiller noirci de sang séché. Il a servi à éponger lorsque Jihad Abou Alia, 25 ans, s'est vidé de son sang. Il est mort, n'ayant pas pu être emmené à l'hôpital. Devant la maison, une ribambelle de voitures incendiées fume encore. Abdel Latif le précise, il n'avait jamais vu de telles scènes. Il nous montre des vidéos.
Regarde, ce sont des colons avec un uniforme de l'armée.
Depuis, dans le village, plus personne ne se sent en sécurité. Les habitants vivent dans l'angoisse permanente que les colons reviennent, explique Rasmi Abou Alia.
Mais nous n'avons pas le choix. Où irons-nous? Nous ne quitterons pas nos maisons.
Notre gouvernement devrait nous protéger, ajoute-t-il, même s'il le sait pertinemment. L'autorité palestinienne ne peut rien faire face à ces attaques soutenues par l'armée israélienne.
Alice Froussard dans le village d'Al-Murayyer. Et à l'instant, nous avons des précisions sur les explosions entendues ce matin dans le centre de l'Iran. Bonjour à Gérard Mohamed, vous êtes notre envoyé spécial à Haïfa dans le nord d'Israël. Est-ce qu'on en sait plus sur les événements de la nuit en Iran ?
Oui, c'était vers 4h du matin, heure de Paris, 6h en Iran. La télévision iranienne a signalé des attaques de drones et des explosions, au moins 3 dans plusieurs provinces, notamment dans le centre du pays, autour d'une base militaire et autour de la grande ville d'Ispahan, zone où se trouvent des installations nucléaires. Mais selon les médias officiels, toujours, il n'y a aucun dégât majeur à signaler sur ces installations, ni ailleurs. L'Iran a activé cette nuit sa défense aérienne et aurait abattu plusieurs drones, seulement des drones. On ne parle pas de missiles pour le moment. Du côté israélien, aucune déclaration. L'armée, contactée par les journalistes ce matin, dit ne pas commenter les événements de cette nuit. Officiellement, elle ne parle donc pas encore de riposte, pas d'allocution non plus du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais selon des médias américains, NBC et CNN, Israël aurait bien prévenu Washington de cette frappe.
Ajra Mohamed avec les moyens techniques de Sandrine Mallon. Les Palestiniens, pas admis comme membres à part entière de l'ONU, les États-Unis ont opposé leur veto hier. L'autorité palestinienne fustige une agression flagrante contre le droit international. En Inde, les premiers bureaux de vote ont ouvert, début de 6 semaines d'élection générale pour renouveler les parlementaires et déterminer le parti au pouvoir. Un scrutin où le Premier ministre sortant, Narendra Modi, est donné favori. Aux îles Salomon, le scrutin est là par contre terminé. Des élections législatives se tenaient avant-hier dans cet état confetti de l'océan Pacifique. Les résultats ne sont pas encore connus, mais on sait déjà que la participation est très élevée. La sécurité de la région est dans tous les esprits au moment où la Chine tente un rapprochement, Gwendal Lavina.
Pendant 30 ans, les Salomon, 700 000 habitants répartis dans des centaines d'îles, ont entretenu un partenariat avec Taïwan. Mais en 2019, l'actuel Premier ministre opère un profond changement de stratégie et décide de se rapprocher de la Chine. Pierre-Christophe Pence est chercheur associé en géopolitique en Nouvelle-Calédonie. Il explique que Pékin y a beaucoup gagné.
C'était un peu une prise de guerre, pouvoir mettre dans son escarcelle un archipel à quelques milliers de kilomètres seulement des côtes australiennes et néo-zélandaises. Et puis être dans cet arc mélanésien qui était jusqu'à présent sous influence plutôt des pays occidentaux, à savoir plutôt l'Australie et les États-Unis.
L'accord de sécurité signé en 2022 par les deux États prévoit la formation des forces de sécurité salomonaises. Mais ce qui inquiète les Occidentaux est un autre projet chinois rendu possible par le texte.
C'est effectivement la perspective d'une présence militaire. On parle souvent de porte-avions, comme si les îles Salomon pouvaient être un porte-avions dans le Pacifique.
Reste à savoir si les électeurs davantage préoccupés par la situation économique catastrophique du pays ont donné raison au Premier ministre candidat à sa réélection. L'opposition a en tout cas fait du scrutin un référendum pour ou contre le rapprochement avec Pékin et prévoit de revenir sur l'accord si jamais l'un de ses candidats est élu.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. École, économie, sécurité, Gabriel Attal vante son bilan après 100 jours passés à Matignon.
Et pour marquer ce cap symbolique, le Premier ministre a donné hier soir une interview de plus de 2 heures sur BFM TV. L'occasion pour lui de rappeler ses priorités comme l'éducation, mais aussi de souligner qu'il est sur tous les fronts, Rosalie Lafarge.
À de nombreux moments, on se demanderait presque si Gabriel Attal ne regrette pas sa vie d'avant Matignon.
Vous avez en face de vous le ministre de l'Éducation nationale, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. J'ai été ministre de l'Éducation nationale avant que je sois nommé ministre de l'Éducation nationale.
Mais c'est bien dans ses habits de chef du gouvernement qu'il est venu défendre son action, parler des multiples chantiers lancés et notamment de celui du retour de l'autorité, largement détaillé le matin même par une série d'annonces pour faire face à la violence d'une partie de la jeunesse, même s'il se montre à la télévision sur un point un peu plus direct qu'à Viry-Châtillon.
Vous avez dans beaucoup d'endroits en France, des groupes plus ou moins organisés qui cherchent à faire ce qu'on appelle un entrisme islamiste. Et donc oui, les préceptes de la charia, notamment dans nos écoles.
De l'école, il en sera donc largement question. Des finances publiques aussi. Et face à une situation en la matière préoccupante, le Premier ministre confirme l'engagement présidentiel d'une baisse de 2 milliards d'euros d'impôts pour les classes moyennes.
Il sera tenu.
Avec une petite nuance.
Et ce que j'ai ajouté, et je le redis ici, c'est qu'on pourrait tenir l'engagement en le finançant. Ça veut dire en mettant en face des 2 milliards, par exemple, une économie fléchée.
Se disant au travail, à la tâche, en action.
Quand je me lève le matin, que je vais travailler, c'est pour répondre aux problèmes des Français.
Et même si tout n'est pas toujours absolument évident avec ces ministres.
Que vous ayez des débats au sein d'un gouvernement, j'ai envie de dire encore heureux, c'est pas l'armée des clones.
Gabriel Attal le jure, il n'a pas la tête ailleurs que rue de Varennes et surtout pas le regard tourné vers 2027, admettant malgré tout, et certains seront tentés d'en tirer une conclusion, que s'il s'était imaginé Premier ministre il y a quelques mois, il ne serait sans doute pas là.
Et parmi les annonces du sursaut d'autorité présenté hier à Viry-Châtillon, cette ville de l'Essonne où le jeune Chem Seddine a été battu à mort à la sortie de son collège il y a 10 jours, Gabriel Attal souhaite des sanctions au moment des examens pour les élèves les plus perturbateurs et une inscription dans le dossier Parcoursup. Autre piste esquissée, un possible durcissement de la réponse pénale avec l'ouverture d'un débat sur l'excuse de minorité, un principe juridique qui atténue les sanctions du code pénal quand il s'agit d'un mineur, un principe inscrit au fondement de la justice française sur lequel Kim Reflet, la présidente du syndicat de la magistrature classée à gauche, ne voit aucun intérêt de revenir.
L'excuse, c'est un mot qui peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas de dire que l'acte commis par un mineur est excusable du fait qu'il est mineur. Mais en revanche, ça va avoir une incidence sur la peine encourue, qui est de la moitié de la peine qui serait encourue par un adulte qui commettrait le même acte. Cette excuse de minorité, elle est inscrite dans notre droit et on ne peut pas la supprimer. On peut l'écarter, en revanche, dans certaines situations. Donc ça, c'est le juge peut déjà le faire. Et donc, ça ne répond à aucun besoin de toucher à cette excuse de minorité. La mettre dans le débat, ça laisse entendre que la justice serait empêchée de sanctionner des mineurs à hauteur de la gravité de leur comportement en raison de cette excuse de minorité, c'est totalement faux. L'idée d'une délinquance des mineurs galopante qui ne serait pas contenue est fausse. La délinquance des mineurs, en réalité, quand on regarde les chiffres du ministère de la Justice, elle est stable, voire en baisse. Et d'autre part, il y a aussi une fausse idée qui serait que la justice ne sait pas répondre ou ne répond pas à la délinquance des mineurs. C'est totalement faux également. 92%, ce sont aussi les chiffres du ministère de la Justice, 92% des actes de délinquance commis par les mineurs reçoivent une réponse pénale, ce qui est un pourcentage plus élevé que pour les adultes. Donc ça veut dire un taux de classement sans suite très très limité. Les mineurs qui commettent des délits et qui sont poursuivis sont sanctionnés.
Kim Reflet, la présidente du syndicat de la magistrature, elle répondait à Florence Turm. Des messages de fermeté qui se multiplient ces dernières semaines au sein du gouvernement. Alors que les élections européennes approchent à grands pas, elles auront lieu le 9 juin prochain, dans un mois et demi. Un scrutin où pour le moment les instituts de sondage donnent la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella en tête. Les européennes vont dessiner en partie la voie française à Bruxelles pour les 5 prochaines années. Une voie qui compte. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Bruxelles, en tant que pays fondateur de l'UE avec l'Allemagne, la France a historiquement un rôle d'influence, mais c'est aussi un poids lourd dans l'UE.
Oui, c'est la deuxième économie de la zone euro, la septième mondiale, et la France occupe une position stratégique avec ses frontières communes avec l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Benelux et une double ouverture maritime. Notre pays tire pleinement profit du marché unique. C'est aussi la première puissance agricole du bloc et à ce titre plus grosse bénéficiaire de la PAC, 9 milliards d'euros par an.
La France, un État puissant, est dirigée, Angélique, par un président résolument pro-européen.
Permet à Paris de façonner et d'orienter bon nombre de politiques communes. Grâce à une diplomatie aussi active en coulisses que lors des réunions formelles et quelques postes clés à la Commission, un Thierry Breton aussi médiatique que puissant, au Parlement des eurodéputés macronistes très actifs, c'est aussi une Française, Christine Lagarde, qui dirige la Banque Centrale Européenne. Nos faiblesses, ce sont d'abord ces fonctionnaires européens, français moins nombreux et souvent moins influents que leurs homologues allemands, notre endettement et la dérive permanente de nos comptes publics, sujet de critique, et puis cette réputation d'arrogance qui colle à la peau de nos représentants. Ce qui est frappant, raconte Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Schuman, qui sillonne les capitales européennes, c'est que sur chaque sujet ou presque, on nous renvoie d'abord cette image de donneur de leçons pour ensuite systématiquement nous demander ce qu'en pense le président Macron.
Et au sein de l'UE, la France, c'est aussi une position singulière en matière de diplomatie et de défense.
Surtout depuis le départ des Britanniques, c'est la première puissance militaire de l'UE, le seul État membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. En matière de politique étrangère, Paris est un acteur majeur de l'Europe et particulièrement écouté depuis le Covid et la guerre en Ukraine. En 2017, le discours de la Sorbonne du président Macron, fervent promoteur d'une Europe plus forte et plus souveraine, avait été accueilli par des sourires polis. Parler de politique de défense commune, de stratégie industrielle à 27 n'est aujourd'hui plus tabou. Jamais la France n'a été aussi influente, se félicite-t-on dans l'entourage du président. Influente, certes, mais aussi source d'inquiétude chez certains partenaires en raison de son paysage politique et de la poussée de son extrême droite eurosceptique.
Angélique Bouin à Bruxelles. Et je vous rappelle le titre développé en début de journal. 3 explosions ont touché le centre de l'Iran cette nuit. Il s'agit, selon les médias américains, d'une attaque israélienne. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. La météo pour le moment avec le retour des giboulées dans le nord-est. La journée sera ensoleillée sur le reste du pays. Les températures, elles sont négatives ce matin sur le centre, entre 0 et 5 degrés sur le reste du pays. Cet après-midi, il fera de 8 à 13 au nord-est, de 13 à 20 sur le reste du pays. C'est la fin de ce journal. Et c'est à vous, Guillaume Erner.
Merci, Valentin Bertrand. Dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton. Peut-on interdire des réunions politiques au nom de l'ordre public ?